Bonjour à toutes. Comme notre thème cette semaine concerne l'écologie, j'ai décidé de vous parler des comparaisons qui sont faites entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle pour voir dans quelle mesure ces méthodes d'analyse sont valables et dans quelle mesure on peut les utiliser ou bien s'il faut amener des modifications lors de ces comparaisons. Alors, pour commencer, je voudrais d'abord revenir sur les définitions. Plus précisément de ces deux types d'agriculture. Alors, en ce qui concerne l'agriculture conventionnelle, cette agriculture résulte en fait de transformations qui ont été initiées dans les années 50, principalement en Europe, mais pas seulement, bien évidemment. Et cette agriculture conventionnelle peut être caractérisée de la manière suivante. Premièrement, l'agriculture conventionnelle utilise des variétés végétales et des espèces animales que l'on qualifie de variétés ou d'espèces à haut rendement. Deuxièmement, l'agriculture conventionnelle utilise des produits, elle ajoute des produits qui permettent d'optimiser la production. Ces produits peuvent être des engrais, des pesticides. Elle pratique également la concentration d'aliments ou encore l'utilisation de médicaments fréquentes. La troisième caractéristique que l'on pourrait donner par rapport à cette agriculture conventionnelle, c'est que en général, les exploitations agricoles sont spécialisées, elles sont également mécanisées et de ce fait, dans la plupart des cas, ce sont des exploitations de grande taille. En ce qui concerne l'agriculture biologique, il y a différents points qui sont respectée et qui donc la caractérise. Le premier point, c'est la non-utilisation de produits chimiques et non plus on n'utilise pas, on n'a pas un recours systématique aux médicaments et les races et les espèces qui sont utilisées dans l'agriculture biologique ne sont pas programmées pour avoir des rendements plus importants. En général, l'élevage biologique est lié au sol, il se fait en plein air, dans un espace suffisant et à des endroits où les animaux peuvent circuler librement. Pour obtenir le label d'agriculture biologique, il y a un cahier des charges défini avec précision. Il faut donc répondre à remplir les conditions de ce cahier des charges. Et pour terminer, je voudrais juste spécifier que les exploitations d'agriculture biologique en général s'occupent de surfaces assez réduites et elles sont très rarement dédiées à une monoculture. Alors, je voudrais maintenant revenir justement sur ce dont je vous parlais en introduction, à savoir les méthodes de comparaison. On étudie régulièrement les effets de l'agriculture et de l'alimentation sur notre environnement et sur notre société. Le problème, c'est que une grande majorité de ces études utilisent des méthodes d'analyse qui ne prennent pas en compte quelques points essentiels. Ces questions qui ne sont pas prises en compte sont par exemple la question de la biodiversité ou encore de la qualité des sols, les questions concernant l'impact des pesticides ou encore les changements sociétaux qui sont impliqués justement par ces pratiques différentes de l'agriculture. De ce fait, comme ces éléments essentiels ne sont pas pris en compte, alors on peut ici douter des conclusions qui sont présentées, puisque dans une certaine mesure, elles peuvent être soit erronées, soit insuffisantes. La méthode qui est souvent la plus utilisée pour justement comparer l'agriculture traditionnelle, conventionnelle et l'agriculture biologique, est une méthode qui analyse le cycle de vie des végétaux et des animaux. La plupart des études sont justement basées sur cette méthode et de ce fait, elle conclut en grande partie que l'agriculture biologique, en fait, est plus nuisible à l'environnement Et cela principalement pour deux raisons. Premièrement, parce que ses rendements sont faibles et de ce fait, en conséquence, en fait, elle est obligée d'utiliser des plus grandes surfaces à exploiter. Récemment, une étude récente de trois chercheurs, un chercheur danois, un chercheur français et un chercheur suédois, ont justement présenté une analyse critique de l'utilisation justement de cette analyse du cycle de vie. Ils considèrent cette analyse en fait basée là-dessus comme trop simpliste et elle en plus elle minimise en fait les avantages majeurs justement de l'agriculture biologique puisque ces derniers ne sont pas pris en compte dans l'analyse du cycle de vie. Ce sont les points que j'évoquais tout à l'heure. Je voudrais revenir par exemple sur la biodiversité. La biodiversité, nous le savons, est capitale pour la santé. Elle est capitale également pour le maintien des écosystèmes. Or, l'agriculture conventionnelle est grandement responsable justement du déclin de la biodiversité durant les dernières décennies. On le voit par exemple dans la diminution de certaines populations d'insectes ou encore même d'oiseaux, les deux étant bien évidemment liés. Il y a aussi à prendre en compte évidemment cette biodiversité, cette disparition de la biodiversité, puisque aujourd'hui c'est à peu près un quart de la surface mondiale qui est utilisée justement par l'agriculture. Donc le rapport de l'agriculture et son influence sur la biodiversité sont essentiels pour la planète. En ce qui concerne l'agriculture biologique, eh bien, elle supporte des niveaux de biodiversité qui sont en général à peu près de 30% supérieurs à ceux de l'agriculture conventionnelle. Et donc on voit bien ici que cet aspect est essentiel et qu'il n'est pas pris en compte par les analyses du cycle de vie. Un autre point qui est important, c'est l'utilisation des pesticides et son utilisation qui continue de croître durant les dernières années. Moi aussi, j'étais surprise des chiffres et c'est pour ça que je vous les donne, à savoir que l'utilisation des pesticides a augmenté de plus de 70% entre 1990 et 2015. Or, nous savons aujourd'hui que les résidus des pesticides présentent des risques pour les écosystèmes, donc pour la biodiversité, et aussi bien les écosystèmes terrestres que les écosystèmes aquatiques. L'utilisation des pesticides est également problématique pour les sols et bien évidemment aussi pour la contamination de l'eau qu'elle représente. Un autre point qui n'est pas pris en compte en général dans les études comparatives entre ces deux types d'agriculture, c'est la dégradation des sols et la qualité justement des sols. L'agriculture biologique a pour fondement en fait l'entretien justement de la qualité des sols. Puisque comme elle n'ajoute pas de produits, le sol est en quelque sorte sa matière première et un sol en bonne santé est une des conditions préalables essentielles justement à l'agriculture biologique. L'agriculture biologique donc entretient une haute qualité de sol, elle a pour ça différents moyens. Elle a par exemple la rotation des cultures, elle a la diversification, à savoir d'éviter justement les monocultures, ou encore l'utilisation des engrais organiques. Si l'on regarde les études qui prennent en compte l'analyse du cycle de vie, elles présentent en général des chiffres qui mesurent l'impact d'une agriculture, l'impact environnemental, par kilo de produits. Et de ce fait, par ce calcul, elle favorise les systèmes intensifs conventionnels. Cependant, si on calcule un impact qui serait basé sur l'impact par hectare? Eh bien, déjà, cette unité est beaucoup plus favorable à l'agriculture biologique. Alors attention, hein, je n'ai pas dit ici que l'analyse du cycle de vie n'ait été mauvaise, d'accord, loin de là, mais elle est un des éléments et elle n'est pas suffisante. Il est nécessaire d'intégrer d'autres méthodes d'évaluation environnementale afin que nos analyses soient plus complètes, plus justes. Et le but d'avoir des analyses plus complètes et plus justes est bien évidemment de pouvoir prendre les bonnes décisions au niveau politique pour pouvoir continuer à tout simplement nourrir la population de la planète. Je vous remercie de votre attention.